Il était question donc aujourd'hui que je vous parle de ce qu'on appelle communément les préceptes. Je dis de ce qu'on appelle communément les préceptes, puisque le terme de précepte est évidemment une traduction plus ou moins adéquate du terme qui est employé dans les textes. Je voudrais aborder les choses par trois biais différents. Premièrement, ces préceptes-là, on les connaît sous la forme essentiellement d'un texte rituel que l'on énonce, une sorte de proclamation d'intention. Donc je voudrais déjà voir qu'est-ce que peut nous apprendre le texte en lui-même sur ce qu'on dit. Vous en connaissez vraisemblablement des traductions. Ces traductions sont-elles suffisantes, correctes? Est-ce qu'elles donnent vraiment raison au texte tel qu'il est rédigé dans la langue d'origine? Ensuite, eh bien, le Bouddha lui-même, dans des suttas, a enseigné sur ce sujet des préceptes. Il y a plusieurs textes, il y en a au moins deux auxquels je pense tout particulièrement. Qu'est-ce que ça va nous apprendre là aussi sur les préceptes? Et puis au final, les préceptes font partie d'un ensemble de pratiques. Quelle est leur place par rapport aux autres pratiques? Comment ça s'articule? C'est ce que je voudrais donc voir, en espérant qu'on aura le temps de tout voir en une heure, ce qui n'est pas forcément tout à fait sûr. Est-ce que vous avez une idée, vous, déjà au départ, du terme en pali ou en sanskrit que nous traduisons par le mot de précepte? Ne répondez surtout pas tous en même temps.
Sutra.
Pardon?
Sutra.
Ah non, sutra, c'est la signification originelle de sutta. Sutta, en pali, c'est ce qui a été bien dit. Et ça désigne les enseignements du Bouddha. Donc c'est pas du tout ce que nous appelons les préceptes. Donc personne n'a l'idée du mot qu'on emploie pour...
Panchasila.
Hein?
Panchasila.
Alors il y a panchasila, pancha ça veut dire 5. Il y a effectivement panchasila ou panchasika. S-I-2-K-H-A. C'est les deux termes qui sont employés. Ou sila ou sika. Dans la formulation même, quand on prend les préceptes, selon l'expression qu'on emploie en français, c'est le terme de sikka. Viramani, sikka, padam, samadhiyami, dans la formule qui est répétée à chaque fois. Effectivement, la désignation fréquente, c'est pancha sila. En fait, il faudrait mieux parler de sikka que de sila. Sila, c'est le terme très général qu'on traduit en français par discipline ou éthique. Ce qui, a priori, d'ailleurs, n'a pas grand-chose à voir. La discipline, c'est ce que fait le disciple. L'éthique, c'est les règles morales que l'on suit. C'est pas tout à fait le même niveau de langage. Comme quoi, vous voyez, les termes sont toujours un petit peu difficiles. Si là, au départ, ça désigne, en fait, étymologiquement, ce qui est naturel, ce qui est caractéristique. Et donc, les sila, au départ... C'est la caractéristique fondamentale de tout être vivant qui n'est pas aveuglé par l'illusion, qui n'est pas soumis à l'avidité, à l'aversion et à l'égarement. Et donc quand on parle des 10 sila, dasa sila, généralement c'est les 10 qualités qui se manifestent lorsqu'on parvient à la libération, lorsqu'on parvient à l'éveil. Et les pancha sila, les 5 sila, c'est une partie de ces 10-là, c'est les 5 premiers des 10, qui manifestent en fait l'état naturel auquel on doit parvenir, qui est un état de non-violence, de non-appropriation, de non-mésusage des sens, etc. Mais ça n'est pas en fait un précepte dans le sens de quelque chose à appliquer. C'est quelque chose vers lequel on tend. Donc ça désigne plutôt le résultat, panchasila, et panchasika, ça sera plutôt les 5 entraînements, les 5 exercices, les 5 outils de travail que l'on va mettre en œuvre pour parvenir au panchasila. Sachant que le panchasila, en fait, n'est que la moitié des dasasila. Donc c'est vers le dasasila qu'il faut, au final, parvenir. Donc effectivement, le terme le plus adéquat, pour ce qui est de ce que l'on évoque là aujourd'hui, ce qu'on appelle les 5 préceptes, c'est plutôt le terme de sikka. Et sikka, très précisément, c'est ce à quoi on s'exerce, ce à quoi on s'entraîne, ce sur le quoi on va travailler pour être capable de. En fait, la forme du mot sikha, c'est ce qu'on appelle en pali un désidératif. Donc ça veut dire que ça exprime un souhait. Et le verbe, la racine verbale, veut dire être capable de. Donc lorsque vous entreprenez un sikha, c'est que vous souhaitez devenir capable de. Donc c'est pas, ça c'est extrêmement important à comprendre dès le départ, c'est que lorsque vous formulez cette prise de précepte, vous n'êtes pas dans un acte d'obéissance à un commandement, mais dans l'affirmation d'un engagement à travailler pour parvenir à un but, avec une bonne conscience de tous les obstacles. Donc ça ne veut pas dire que vous allez réussir, ça veut dire que vous vous engagez à tenter. Et que ça n'est pas non plus un ordre que vous subissez de l'extérieur et auquel vous vous sentez imposé de devoir mettre en œuvre. Donc ça, c'est, il y a vraiment l'idée d'une déclaration d'intention, sachant que l'intention, c'est absolument capital dans le bouddhisme, c'est l'intention qui fait tout, mais en même temps, voilà, c'est un entraînement, c'est un exercice. Vous n'êtes pas sûr du tout d'y parvenir. Alors, les préceptes, c'est un terme donc très vague. Si je prends le terme de sikha, qui est vraiment celui qu'on emploie dans les textes bouddhiques, ben vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4. C'est les plus fréquents. Nous, on connaît plutôt sous la forme de 5. Le cinquième n'est pas forcément le nombre le plus fréquent dans les textes. Vous en pouvez en avoir 8. Vous pouvez en avoir 10. Vous pouvez en avoir 104. Vous pouvez en avoir 227. Vous pouvez en avoir 300. Mais tous, à chaque fois, s'appellent sikha. Et les 300 ou les 227 peuvent être résumés à 3. Tous ces préceptes, c'est ce à quoi s'engagent tous les disciples du Bouddha, quel que soit leur niveau d'engagement, quel que soit leur statut social. C'est-à-dire que vous soyez un maître de maison, un fidèle, ou pasaka, que vous soyez un bhikkhu, un moine, c'est toujours des sikha auxquels vous allez vous engager. Et le nombre, en fait, il ne fait pas grand-chose à l'affaire. C'est différentes formulations qui attirent votre attention sur un certain nombre de points qui sont considérés comme plus ou moins importants. Mais bon, voilà, les bhikkhus, hommes, sont censés prendre 227 préceptes, 227 sikha. Un jour, un des disciples du Bouddha qui venait de prendre ses vœux, est allé le trouver en lui disant « Mais j'arriverai jamais à me souvenir de 227. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de m'en donner moins? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de m'en donner un petit peu moins, que je sois sûr de pouvoir m'en souvenir ?» Et le Bouddha lui a dit « Est-ce que tu peux te souvenir de 3 ?» Le bhikkhu a répondu « Oui, 3, il n'y a pas de problème. Bon, maîtrise ton corps, ta parole et ton esprit. » Voilà. Donc finalement, que vous en ayez 3, 4, 2, 7, 12, 100, 227 ou 300, peu importe. Le principal, c'est maîtriser le corps, la parole et l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maîtrise? Cette maîtrise, on peut en avoir une idée plus précise quand on regarde la formule que l'on va donner dans le rituel proprement dit des préceptes, qui est cette formule qu'on trouve à la fin de chacun, le refrain, Veramani Sikapadam Samadhiyami. Donc, Sika. Je vous en ai parlé un petit peu, je vais revenir tout à l'heure dessus. Donc, on a une première formule qui est Veramani Sikapadam et un verbe qui est Samadhiyami. Samadhiyami, déjà, c'est ce qu'on traduit généralement par je m'engage. Adhiyami, si je voulais le traduire le plus littéralement possible, Samadhiyami, je dirais, je m'adonne complètement. Je m'adonne complètement. Parce que la racine da, ça veut dire prendre. Ada, donner. Ada, je traduis ça par adonner. S'adonner. Et adhiyami, c'est s'adonner à. C'est prendre sur soi et sam de façon complète. Samadhiyami, je prends complètement sur moi, je me voue complètement à, je m'adonne complètement à. Voilà, ça c'est le verbe. C'est là où vous exprimez votre volonté de vous exercer sans être sûr d'y parvenir. Mais voilà, je me voue complètement à la tâche de. Après l'expression veramani sika padam, en fait il y a trois mots, veramani, sika et padam. Padam, ça veut dire le pied. Ici, ça peut être compris d'après les spécialistes, les philologues, plutôt comme la catégorie, le groupe. Donc je me voue complètement à cette catégorie Sika d'entraînement, de travail pour devenir capable de, et le mot finalement le plus important, c'est Veramani. En quoi va consister ce travail? En Veramani. Et Veramani, c'est une expression qu'on traduit généralement par s'abstenir de, mais qui strictement veut dire ne plus prendre plaisir à. Ne plus prendre plaisir à. Vi, ram. Vi, qui marque la séparation, et ram, c'est le fait de jouir de prendre plaisir à. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ne plus prendre plaisir à, et comment on s'en transforme ça en s'abstenir de? L'idée, c'est que, pour le Bouddha, le moteur de l'humanité, c'est la recherche du plaisir. La recherche du plaisir sensuel. Et ça sera exprimé d'ailleurs de façon très précise dans un de ces préceptes. On est prêt à s'inventer toutes les excuses possibles et imaginables pour s'autoriser ces plaisirs. Et ça nous paraît normal, ça nous paraît naturel, ça nous paraît un droit. Et ô combien dans nos civilisations occidentales, nous sommes tous fondés sous le droit, sur le droit naturel, le droit ceci, le droit cela. Je vous rappelle d'ailleurs que dans les sociétés asiatiques et dans les sociétés bouddhiques, le droit ça n'existe pas. On peut parler de devoir, oui, mais alors le droit, c'est pas une notion qui existe dans les cultures asiatiques. Donc nous, en revanche, on a toujours cette idée d'un droit. Mais voilà, naturellement, on pense qu'on a droit au bonheur, on a droit au plaisir. Ça nous paraît naturel de rechercher ce qui nous fait plaisir, ça paraît naturel de rechercher ce qui nous fait du bien. Et on est prêt à s'inventer toutes les excuses possibles et imaginables pour ça, pour trouver du plaisir. Et s'abstenir de, c'est finalement mettre en cause cette sensation de droit, cette sensation du caractère naturel de la recherche du plaisir. C'est s'interroger sur. C'est prendre un moment d'arrêt en disant, mais est-ce que c'est normal après tout? Est-ce que c'est sain? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que ça va me faire réellement du bien? Donc s'entraîner à s'abstenir, s'entraîner à ne pas éprouver de plaisir à, c'est remettre en cause ses habitudes. Remettre en cause, c'est ce qui nous paraît le mouvement le plus naturel de notre psychologie, de notre personnalité, de notre façon de vivre. Et les quatre principaux préceptes sont là finalement pour nous montrer le champ d'application de ce sentiment du droit au plaisir qui nous est naturel, qui nous semble naturel et qu'il va falloir remettre en cause. Donc l'entraînement, en fait, il est là pour nous permettre de nous rendre compte de nos habitudes mentales. Tout ce qui façonne notre esprit habituel, notre manière de penser qui nous semble naturelle. Or, pour le Bouddha, toutes ces constructions mentales, toutes ces habitudes, tout ce qu'on appelle les samkara, c'est ce qui nous maintient dans le samsara. C'est justement le fait de ne pas voir ces sankaras à l'œuvre qui nous enchaînent au samsara. Et donc, si on veut se désenchaîner du samsara, il faut connaître ces sankaras. Et pour les connaître, il faut les voir à l'œuvre. Et pour les voir à l'œuvre, eh bien, il faut s'interroger sur tout ce qui nous semble naturel dans notre esprit et dans notre manière d'agir. Voilà. Et les préceptes, ça sert à ça. C'est un entraînement à l'observation de cette tendance qui nous semble être naturellement constitutives de notre personnalité, autrement dit de notre moi. Ben voilà, le problème dans le bouddhisme, c'est que le moi, il est remis en cause. Donc toutes ces attitudes naturelles doivent être remises en cause aussi. Et les préceptes sont là, justement, pour nous aider à cette remise en cause, à cette observation. Donc quatre pôles principaux d'observation qui sont donnés par les quatre termes que l'on utilise au début dans la formulation, donc il y a panatipata, vera manisika padam samadhiyami, ensuite on a addinadana, ensuite on a kamesu michachara, et ensuite on a musavada. Donc, je laisse le cinquième de côté, parce que d'une part il n'apparaît pas dans les textes les plus anciens, et d'autre part il n'est pas aussi important finalement que les autres. Alors, habituellement, ces termes sont traduits de la manière suivante. Panatipata, ne pas tuer. Adinadana, ne pas voler. Kamesu michachara, il y en a qui savent ? Le troisième.
C'est la vie sexuelle.
C'est ce qui concerne la vie sexuelle, donc généralement c'est ne pas pratiquer l'adultère. C'est comme ça que c'est présenté le plus souvent. Et musavada, ça concerne la parole, et c'est donc souvent ne pas mentir. Donc on a des expressions qui, bien évidemment, pour nous occidentaux, rappellent les 10 commandements de la Bible. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas ce qui se dit évidemment dans le texte bouddhique. Comme par hasard, le texte bouddhique n'est pas un texte monothéiste. Oh, quelle surprise! Maintenant, c'est vrai que si on les a traduits comme ça, c'est qu'il y avait quand même des petits rapprochements. Mais voilà, ce ne sont que des rapprochements, et ces rapprochements sont peut-être un peu abusifs. Alors, panatipata. Pana, pour ceux qui font du yoga, doivent connaître le terme de prana, le souffle. Donc, pana, c'est la version pali. Et apatipata, c'est un terme qu'on trouve que dans cette expression-là, qui est très rare dans les textes bouddhiques, qui veut dire faire violence. Dans le sens de contrainte, de contraindre. Donc l'idée, c'est de contraindre le souffle vital. Contraindre le souffle, c'est contraindre l'élément vital. Hein. Pana, ici, ça remplace un terme qui serait plus fréquent dans les textes bouddhiques, qui serait jivita, le principe vital. Donc là, c'est l'idée que l'on prend plaisir, hein, si je comprends Vairamani, qu'on prend plaisir à contraindre le principe vital. De qui ? De qui ?
De tous.
De tous. Des autres.
Oui, les autres.
Pas le chien. Les autres. Donc l'idée, en fait, là, qui sous-tend, c'est le fait que on est prêt à écraser les autres. On est prêt à s'imposer aux autres. On est prêt à considérer les autres comme moins importants que soi. Hein. On est prêt à gêner autrui pour éprouver soi-même du plaisir. Contraindre autrui pour éprouver soi-même du plaisir. Hein. Donc c'est pas seulement tuer. C'est bien plus large que tuer. C'est toute manifestation d'une violence vis-à-vis d'autrui pour me satisfaire. Donc ça peut aller très très loin. Et puis autrui, c'est tous les êtres sensibles. Donc c'est aussi les poulets de batterie.
Oui, voilà.
C'est aussi les moustiques. C'est aussi le chien, le chat, l'oiseau qu'on met en cage, le poisson qu'on met dans un bocal. Mais c'est tellement beau à regarder. Hein? C'est tellement agréable d'avoir un chien dans son un chat ou un chien dans son appartement, etc. Peu importe. L'idée vraiment fondamentale, c'est, voilà, ça nous paraît naturel de contraindre un être sensible parce que ça nous donne du plaisir. Donc ce n'est pas seulement ne pas tuer. Bien sûr que c'est ne pas tuer. Mais le terme en lui-même dit beaucoup plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on est censé observer à partir de ça ? C'est le désir d'appropriation qu'on a vis-à-vis des êtres. On se les approprie comme des instruments de notre propre plaisir, de notre propre bonheur. On est prêt à avoir une violence certaine vis-à-vis d'eux, mais pour justifier notre propre plaisir. Vous voyez que c'est beaucoup plus loin qu'une abstention du crime. Beaucoup plus que ça. Adinadana, c'est une autre forme d'appropriation, donc c'est ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. Alors, pour comprendre jusqu'où peut aller cette expression, il faut voir ce que ça donne dans la règle des moines, des bhikkhus. Les bhikkhus ont interdiction formelle de demander quoi que ce soit, sauf à leurs parents et à leurs frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de crever de faim dans la rue, ils n'ont pas le droit de demander à manger. Ils ne peuvent rien prendre de ce qui n'a pas été offert. Vous avez de très nombreux textes qui illustrent ça, de bhikkhus, période de famine, ils sont dans un verger, ils sont en train de mourir, il y a des fruits partout, autour, mais personne pour leur offrir. Eh bien, ils se laissent mourir de faim, pour ne pas briser les préceptes. Pourquoi ? Autre exemple, un bhikkhu qui se fait disputer parce qu'il se penche sur une fleur pour en sentir le parfum. Tu as pris ce qui n'a pas été donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas le fait de sentir le parfum qui est mis en cause. C'est le fait d'aller chercher le plaisir de sentir le parfum. C'est le fait d'exprimer un désir. On n'est pas dans « je prends ce qui est donné ». On est « je vais chercher ce qui ne m'est pas donné ». Je vais le prendre. Donc ne pas prendre plaisir à prendre ce qui n'est pas donné, là encore, vous voyez que ça peut aller très loin, si on prend non seulement le sens du mot en lui-même, mais les exemples qui sont donnés dans la règle pour les bhikkhus. Alors bien sûr, les règles pour les bhikkhus, elles sont plus strictes que pour les maîtres de maison. Mais bien sûr qu'un maître de maison, si je veux se considérer comme un vrai disciple du Bouddha, doit tendre, même en tant que maître de maison, à vivre les préceptes comme le vit un bhikkhu. Ce qui est important ici, encore une fois, c'est de voir à quoi on est prêt pour justifier notre désir d'appropriation. Et ce désir d'appropriation, qu'il soit dans le vol d'un bœuf, dans le vol d'un œuf ou dans le vol du parfum d'une fleur, c'est toujours le même. C'est toujours le même désir d'appropriation, quel que soit l'objet de l'appropriation. Or, ce qui importe, c'est pas l'objet, c'est le désir. Ce qui importe, c'est pas l'autre, c'est moi. Si je veux comprendre comment fonctionne mon esprit, je dois étudier cette façon, ce désir d'appropriation, tel qu'il se manifeste dans toutes ses manifestations, à partir de mon esprit. Et peu importe l'objet. Le désir reste le même. Donc adinadana, c'est ça. Ne pas prendre plaisir à prendre ce qui n'a pas été donné. Alors bien sûr, ça peut s'exprimer de façon très, très multiples et variées. Vous n'aurez pas besoin de chercher très loin pour en trouver de multiples exemples dans votre vie quotidienne. Kamesu michachara. Kamesu. C'est karma, comme dans Kama Sutra, c'est le plaisir sensuel, le désir sensuel. Pas seulement sexuel. Bien évidemment, le désir sexuel est le parangon du désir sensuel. Mais Kama, c'est tous les désirs sensuels, tous les désirs qui s'éprouvent à travers les sens. Alors, généralement dans les textes bouddhiques, on réserve ça aux cinq sens physiques. Même si le bouddhisme considère qu'il y a six sens, le sens mental étant le sixième. On peut éprouver du plaisir à travers le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, écouter une belle musique, voir un beau paysage, goûter un bon plat, un petit carré de chocolat, se couvrir la peau d'une écharpe de soie ou d'une chemise de soie, enfin, vous avez tous les exemples, mais on peut éprouver beaucoup de plaisir à ses propres idées ou à ses propres sentiments. On peut être très heureux d'être amoureux, on peut être très heureux de se trouver intelligent, on peut être très heureux de son superbe raisonnement, on peut être très heureux d'avoir enfoncé quelqu'un qui nous paraît un imbécile, etc., etc. Donc, effectivement, on peut éprouver du plaisir à travers les six sens. Mais, généralement, bon, on va pas aller plus loin que les textes, là, quand on parle de kamma, ça n'est pas le plaisir mental, c'est uniquement les plaisirs dits physiques, sensoriels, physiques. Et puis, il y a ce terme de michachara. Micha est traduit généralement par erroné, et achara, c'est la manière de se comporter. Donc ce serait la manière incorrecte de se comporter vis-à-vis des plaisirs sensuels. Ce qu'on traduit souvent par les excès dans les plaisirs sensuels. Si on regarde d'autres textes où ce terme de micha, cet adjectif, cet adverbe micha apparaît, l'idée c'est plutôt une idée d'exclusivisme. Une attitude micha, c'est une attitude qui considère qu'il y a une seule réponse à apporter à la question. Et que toutes les autres doivent être balayées. C'est le fait d'être exclusif, exclusiviste ou excluant. Donc un peu monomaniaque. Polarisé. Sur quelque chose. Donc, par rapport au plaisir sensuel, donc ça n'est pas une condamnation des plaisirs sensuels, c'est pas un refus des plaisirs sensuels, c'est le danger que représente ce que je disais tout à l'heure, là, tout ce qu'on est prêt à inventer pour justifier le fait d'éprouver tel ou tel plaisir. On en est tellement obsédé, on a tellement envie de ça, qu'on est prêt à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Toutes les bonnes raisons qu'on peut se donner. Justifier de manger un petit carré de chocolat en plus. Par exemple, ce genre de choses. Hein. Voilà. C'est ce stratagème psychologique qui fait que on est toujours à favoriser nos obsessions, nos habitudes, nos excès. Hein. Et on est prêt à beaucoup de choses. Mais ça n'est pas une condamnation des plaisirs sensuels. Cela dit, attention, dans le bouddhisme, plaisir sensuel, c'est le lien par excellence qui nous maintient dans le samsara. Mais le fait d'éprouver quelque chose de façon agréable, c'est le résultat des karmas antérieurs. Donc, qu'on éprouve quelque chose comme agréable ou désagréable, d'une certaine manière, on n'y peut rien. C'est pas dans l'instant que ça se passe. C'est le résultat de quelque chose de passé. En revanche, quand, sur le moment, on éprouve quelque chose comme agréable et comme désagréable, il ne faut pas reproduire karmiquement la réaction qui va faire que, ultérieurement, ça va se perpétuer. Autrement dit, que ça soit agréable ou désagréable, on le prend tel que c'est. Et il ne peut pas avoir cette réaction de « c'est agréable, donc j'en veux encore, donc j'en veux plus, c'est désagréable, donc je le refuse, donc je veux que ça cesse ». À partir du moment où vous réagissez comme ça, là vous produisez du karma, et hop, la machine est repartie pour un tour. Donc vous ne pouvez rien contre le fait qu'aujourd'hui vous trouvez les choses agréables ou désagréables, puisque ça vient du passé, mais vous pouvez faire en sorte de ne pas reproduire ce type de réaction qui va amener à reconnaître la même situation ultérieurement. Bon, là c'est pas ce qui est en cause dans ce précepte. Dans ce précepte, c'est vraiment l'idée de l'excès, l'idée de l'intentionnalité en vue du plaisir. C'est pas le fait d'éprouver du plaisir, c'est le fait de rechercher le plaisir et d'être prêt à tout pour toutes les petites compromissions possibles et imaginables en vue d'éprouver un certain type de plaisir. Le quatrième, c'est Musavada. Vada, c'est la parole. Moussa, c'est un terme assez général pour dire inapproprié, inconvenante. Et donc, généralement, les textes précisent quatre types de paroles inconvenantes et inappropriées. La parole qui blesse, la parole mensongère, la parole inutile et la parole frivole. Donc on doit ne pas, on doit s'abstenir, ne pas éprouver de plaisir avec ces quatre types de paroles. Autant dire qu'on ferme sa gueule la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle le noble silence. Surtout dans les pays un peu latins. Parce que la parole frivole et inutile, elle est fréquente. Alors ça ne veut pas dire qu'on se tait. Le noble silence, ça ne veut pas dire qu'on se tait. Ça veut dire qu'on retient sa parole si on risque de prononcer une parole mensongère, blessante, inutile ou frivole. Mais il ne s'agit pas de se taire si on a quelque chose d'utile à dire, d'intéressant, qui risque de créer l'harmonie et de donner du bonheur. Hein? Donc, le noble silence, ça veut dire parler du dharma, enseigner, poser des questions, ça veut dire apporter son réconfort à quelqu'un, etc. Donc là, c'est l'idée de briller en société pour le plaisir de la parole. Hein? C'est l'esprit, si français, si latin. C'est tout ce qu'on peut dire simplement pour se faire valoir à ses propres yeux ou aux yeux d'autrui. Donc c'est une manière aussi de surveiller tout ce qui met en valeur l'image qu'on a de soi. Qu'est-ce que c'est que l'image qu'on a de soi? C'est le moi. L'atman, ce qui nous maintient dans le samsara. Donc c'est tous ces petits actes de parole qui alimentent le moi. Et notre croyance au moi, et le plaisir qu'on retire de notre propre moi. Donc en gros, ces quatre préceptes, ils sont là pour nous mettre à l'affût de toutes ces manifestations du moi auxquelles on ne prête pas attention. Parce qu'elles nous semblent constitutives de nous-mêmes, parce qu'elles nous semblent tellement naturelles qu'on n'y fait pas attention. Et la particularité des préceptes, c'est que on va traquer, si je puis dire, ou on va guetter ces manifestations à chaque fois dans un rapport à l'autre. Puisque c'est faire violence à autrui. C'est prendre quelque chose qui a des chances d'appartenir à autrui ou d'être utile à autrui. C'est, dans les plaisirs sensuels, un rapport aussi à des objets ou des personnes qui vont nous apporter ce plaisir sensuel. Et la parole aussi, elle s'adresse à quelqu'un. Donc la caractéristique de ces préceptes, c'est justement qu'elles mettent en cause autrui. C'est pas quelque chose qui se règle seulement à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui se manifeste extérieurement par des gestes et par des paroles. Les trois premiers par des gestes, la violence, l'appropriation et l'utilisation dans le plaisir, et puis le quatrième, la parole. Et donc on voit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, maîtriser son corps, sa parole et son esprit, on voit que les préceptes, ça permet de maîtriser le corps et la parole. Puis après, il y aura la maîtrise de l'esprit. Mais le corps et la parole, c'est la manifestation extérieure de l'esprit. Donc bien sûr, il y a la pensée qui est à l'origine, et puis ensuite, il y a la manifestation qui se produit juste après. Déjà, si on arrive à jouer sur les manifestations, à voir les manifestations, à comprendre ces manifestations, on aura plus de chances ensuite de remonter jusqu'à l'intention qui était avant. Mais il faut déjà être capable de reconnaître les manifestations pour pouvoir ensuite voir l'intention. Si déjà on n'est pas capable de voir la manifestation, je ne vois pas comment on sera capable de voir l'intention. Donc on commence peut-être par ce qui est le plus grossier, on commence par ce qui est extérieur, on commence par ce qui met en cause autrui, personne ou objet. Mais tout ça, bien évidemment, a pour but de nous amener à nous voir plus en profondeur ce qui se passe dans l'esprit avant même cette manifestation. Mais bien sûr qu'il faut commencer par ce qui est le plus visible, par ce qui est le plus grossier. Et rassurez-vous, ce grossier-là peut être subtil. Très subtil. Y compris dans la parole intérieure. Sous le discours qu'on se tient à soi-même. Hein. Je pense à ça pour Kamesu Mitachara. Des excès dans la justification du plaisir des sens. Alors rapidement le cinquième, Sura Maraya Majja Pamadatana. On vous dira généralement que c'est s'abstenir de tout intoxicant. C'est pas ce que dit le texte, mais on peut comprendre effectivement qu'il ait été traduit comme ça à notre époque. Le texte parle uniquement de boissons fermentées et alcoolisées. Sura Maraya Majja. C'est boissons brassées, alcoolisées et fermentées. Mais le terme le plus important, c'est pamadatana, qui fait perdre la maîtrise. Donc en fait, c'est toute substance, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'intoxicant, pour être plus large, mais c'est toute substance qui fait perdre la maîtrise de soi. Bien évidemment, si vous voulez être apte à vous observer, il faut que vous soyez conscient. Si vous êtes ivre-mort, si vous êtes complètement drogué, il y a peu de chances que vous arriviez à observer ces jeux subtils de votre personnalité. Donc ce cinquième précepte, qui n'est pas cité dans les textes les plus anciens, mais qui est cité systématiquement dans les textes classiques, est un peu la condition sine qua non pour les quatre précédents. Ça va de soi que si vous n'êtes pas maître de vous-même, si vous n'êtes pas clairvoyant, vous ne verrez rien. Voilà, donc ça, j'ai pas...
Est-ce que ça inclut le tabac ?
Ah, grave question. Nous sommes dans une association bouddhique Theravada. Je vais répondre non. Pour le Theravada, le tabac n'est pas un alcool. Et le tabac ne fait pas perdre la maîtrise de soi, au sens où l'alcool le fait. Je vous rappelle que traditionnellement, on offre du tabac, des cigarettes aux bhikkhus, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est.
Je sais que c'est toléré en France.
Après, c'est dans les pays où on pratique le tantra, où on va considérer que le tabac est un intoxicant du corps subtil. Dans le pays du Theravada, on pratique rarement le tantra, c'est pas considéré comme tel. Maintenant, faut reconnaître que c'est un peu jésuite comme réponse. Pour être bien intoxiqué par le tabac et bien accro, je sais que ça fait perdre une partie de la maîtrise de soi. Mais pas forcément la maîtrise de l'observation. C'est vrai qu'il y a un aspect de dépendance physique qui s'instaure. C'est pas pour autant que ça va pas comme un alcool qui détruit vraiment le tabac. Non, les Indiens à l'origine l'utilisaient au contraire pour activer les fonctions cérébrales, le calumet de la paix. Le calumet de la paix, on fumait ça justement pour activer le cerveau, etc. Et c'est reconnu moléculairement pour
Chimiquement,
voilà, merci. Ça active des fonctions cérébrales. Bon, maintenant, bon, tout ça est... Mais c'est vrai que dans le pays du Theravada, le tabac n'est pas considéré comme...
Ça rejoint un peu le troisième précepte, non ? Le désir, la recherche de plaisir, en fait.
Tout dépend si vous... Enfin bon, je ne vais pas passer 5 heures là-dessus. Est-ce que c'est le fait d'être une dépendance qui est physiologique, chimique, et dans ce cas-là, la volonté n'a plus rien à voir dedans ? Ou est-ce que c'est la recherche du plaisir ? Les deux sont liés. On peut rarement avoir que l'un sans avoir l'autre. Mais voilà, ça peut être intéressant de s'observer, justement, dans sa dépendance. Moi, c'est ce que je faisais régulièrement quand j'allais en retraite. Mais je me rendais compte que quand j'étais bien dans la retraite, l'envie de cigarette disparaissait complètement. Mais le premier jour et le dernier jour, non. Le premier jour parce qu'il y avait les habitudes, et puis le dernier jour parce qu'on sentait qu'on allait sortir. C'est une occasion de travailler, une occasion d'observer. Après, chacun a son propre karma, et ne soyez pas un mesureur d'autrui. Comme dit le Bouddha. Une autre question avant que je continue ? Le vocabulaire est clair ? Vous voyez l'ampleur du problème ? Alors, je vais renfoncer le clou un bon coup. Généralement, lorsqu'on vous présente les préceptes, on fait allusion à un enseignement du Bouddha, un sutta qui s'appelle le Veluddhavareya Sutta, que vous trouvez dans le Samyutta Nikaya, où un groupe de personnes du village de Veluddhavara vient trouver le Bouddha et demande « Enseignez-nous quelque chose qui soit adéquat avec notre manière de vivre, pour être plus heureux, sous-entendu. » Et le Bouddha répond, « Quel est, au chef de famille, le mode de vie qui procure un profit à chacun. Imaginons que vous réfléchissiez ainsi. J'aime la vie et je ne veux pas mourir. J'aime la joie et je répugne aux douleurs. Si je suis privé de la vie par quelqu'un, ce ne serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si quelqu'un, avec l'intention... excusez-moi. J'ai un peu modifié le texte dans ce fascicule et je l'ai un peu réduit. Si quelqu'un, avec l'intention de voler, prenait une chose qui m'appartenait, que je ne lui ai pas donnée, ou si quelqu'un avait des relations sexuelles avec mes épouses, ou si quelqu'un entamait... Oui, je suis désolé, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Si quelqu'un entamait mon bien-être en proférant des mensonges, en me séparant de mes amis par la calomnie, ou s'il s'adressait à moi avec des paroles insensées ou totalement futiles, tout cela ne serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. De même, si moi, de mon côté, je prive quelqu'un d'autre de la vie, ce ne serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui, car il ne veut pas qu'on le tue, il aime la joie et il répugne aux douleurs, tout comme moi. Si avec l'intention de voler, je lui prends une chose qui lui appartient et qu'il ne m'a pas donnée, si j'ai des relations sexuelles avec ses épouses, si j'entame son bien-être en proférant des mensonges, en le séparant de ses amis par la calomnie, en s'adressant à lui avec des paroles insensées ou totalement futiles, ce ne sera un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi est un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour autrui. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, pourquoi l'infligerais-je à quelqu'un d'autre ? Le résultat d'une telle réflexion est que l'on s'abstient de tuer les êtres vivants, de voler, d'avoir des relations sexuelles incorrectes, de proférer des mensonges, des calomnies, des paroles insensées ou futiles. On encourage les autres à s'abstenir de la même manière de tels actes, et ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, on est complètement pur. Donc ça, c'est le texte qui est généralement le plus cité pour expliquer comment le Bouddha enseigne la pratique des préceptes à ses disciples. Il y a un problème. C'est que dans ce cadre-là, le Bouddha ne s'adresse pas à ses disciples. Dans ce cadre-là, le Bouddha s'adresse à un village de brahmanes. Le texte nous précise au début, une fois le bienheureux voyageait dans le pays de Kosala, il arriva à Veludvara, un village de brahmanes, et les brahmanes lui rendirent visite et lui demandèrent, « Oh, vénérable, nous sommes des gens qui vivons avec des passions, des espoirs, des désirs, tels que vivre au milieu de nombreux enfants, d'utiliser des bijoux, des parfums, des onguents, de manier l'or et l'argent, de renaître dans les destinées bienheureuses. Enseignez-nous quelque chose qui soit adéquat avec notre manière de vivre. » Autrement dit, le Bouddha ici s'adresse à des gens qui n'ont pas du tout envie de devenir bouddhistes, qui n'ont pas du tout envie de parvenir à l'éveil et à la libération, puisque eux, ce qui leur plaît, c'est les mômes, les bijoux, les parfums, l'or, l'argent, et renaître chez les dieux. Et donc, il leur dit, en gros, ce que tu n'as pas envie que l'on te fasse à toi-même, ne le fais pas à autrui.
C'est stoïcien.
Non, pas stoïcien, c'est ce qu'on appelle la règle d'or dans l'éthique. L'éthique universelle, la règle d'or, moi ce que j'appelle l'égoïsme bien partagé. Il n'y a aucune remise en cause de moi là-dedans. Ce que moi je n'aime pas, un autre ne l'aime pas. Donc ce que moi j'ai pas envie de subir, je ne le fais pas subir à quelqu'un d'autre. Où est-ce que vous voyez quelque chose de bouddhique là-dedans ? Il n'y a rien de bouddhiste. C'est absolument sans rapport avec l'enseignement du Bouddha. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'enseignement non spécifique au Bouddha. Tous les textes présentent l'enseignement graduel des Bouddhas. Et il y a une partie de cet enseignement qui n'est pas spécifique au Bouddha. Et ça, c'est ce que, dans d'autres textes, on appelle les vertus mineures. Les vertus mineures, c'est celles qu'on attend de n'importe qui, quelle que soit sa religion. Parce que ça paraît le béaba minimum attendu de quelqu'un qui a un minimum de vie spirituelle. Mais ça n'a rien de spécifique au bouddhisme. Et c'est pas parce que le Bouddha s'en fait le porte-parole que c'est bouddhiste. En l'occurrence, c'est exactement comme le Dalai Lama. Le Dalai Lama, il fait les conférences grand public, et après il fait l'enseignement bouddhiste. Les conférences grand public, qu'est-ce qu'il fait ? Généralement, un enseignement sur l'éthique universelle. Exactement comme le Bouddha ici. Et puis après, il fait un enseignement. Et là, je peux vous dire qu'il y a la moitié du public de la première partie qui dit « Là, moi, j'y comprends plus rien, je suis plus d'accord. » Parce que c'est plus du tout universel, c'est réservé aux bouddhistes. Donc ça, cet égoïsme bien partagé, ne fais pas à autrui ce que tu ne devrais pas qu'on te fasse à toi-même, c'est pas bouddhiste. Donc c'est pas ça le précepte, selon le Bouddha. Hein ? C'est pas ça. Je vous ai dit, le texte, il nous dit pas qu'il faut pas avoir de relations sexuelles avec les épouses des autres. Il dit qu'il faut être attentif à tous les chemins tordus qu'on est prêt à prendre pour satisfaire ses plaisirs sensuels. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même degré, c'est pas le même niveau. Donc là, si on veut voir exactement de quoi il en retourne, il faut voir un autre texte où le Bouddha s'adresse à son propre fils, Rahula. Rahula qui est un tout jeune bhikkhu, il y a une dizaine d'années, pas plus, 8-10 ans. Et il va lui enseigner à propos de la parole mensongère. Mais c'est valable pour tout. Et là, le texte est totalement différent. Bon, alors encore, je suis désolé, comme c'est tiré d'un fascicule d'introduction, j'ai un peu manié le texte, mais il y a beaucoup de répétitions, donc je ne prends pas le texte original. D'abord, pour commencer, Rahula accueille son père, lui donne un vase plein d'eau dans lequel le Bouddha va se laver les pieds, puis il verse l'eau sur la terre, il reste un petit peu d'eau dans le fond du bol. Et le Bouddha dit, Rahula, vois-tu ce peu d'eau qui reste au fond du vase ? Oui, Seigneur. Eh bien, c'est aussi peu que ce qu'il reste d'un véritable samana chez celui qui ne ressent aucune honte à dire un mensonge délibéré. Un vase avec un petit peu d'eau dans le fond, comparé donc à un samana, un ascète, un pratiquant, un disciple, qui oserait s'autoriser, ne serait-ce qu'un mensonge délibéré. Au lieu que le bol soit plein du samana, il ne resterait plus qu'un tout petit fond. Parce qu'il se serait autorisé un mensonge. Souvenez-vous de la formulation Sam Adiyami. Sam, ça veut dire complètement. Je me voue complètement. Pas à moitié. Complètement. Après, vous les prendrez peut-être moins facilement. Rahula, c'est comme un éléphant royal, immense, de bonne race, accoutumé à la bataille, pourvu de défense comme des brancards de chars, qui se servirait de toutes les parties de son corps pour le combat, mais garderait sa trompe en arrière. Son cornac s'en rendrait compte et penserait, celui-là n'a pas totalement voué sa vie au roi. Et donc il est nul pour la bataille. Il en va de même pour quiconque ne ressent aucune honte à dire un mensonge délibéré. Il n'est pas de mal, je te l'ai dit, qu'il ne ferait. Aussi, Rahula, tu dois t'entraîner ainsi. Jamais je ne proférerai de mensonge, fût-ce pour plaisanter. Qu'en penses-tu, Rahula ? À quoi sert un miroir ? À réfléchir, Seigneur. Eh bien, Rahula, de même, les actes corporels, verbaux et mentaux doivent être accomplis après mûre réflexion. Chaque fois que tu voudras accomplir, que tu accompliras ou que tu auras accompli un acte corporel, verbal ou mental, tu devras réfléchir ainsi. Cet acte que je vais accomplir, que je suis en train d'accomplir, que je viens d'accomplir, présente-t-il un danger pour moi, pour autrui, pour moi et pour autrui ? Est-ce un acte inadéquat aux conséquences dommageables, aux résultats néfastes ? Si, en réfléchissant ainsi, tu conclus que cet acte présente bien un quelconque danger, alors tu devras considérer tout acte de ce type comme absolument inapproprié pour toi. Et tu devras toujours t'en abstenir. Mais si, en réfléchissant ainsi, tu conclus que cet acte ne présente aucun danger pour toi, pour autrui, pour toi et pour autrui, que c'est un acte adéquat, un acte aux conséquences heureuses, aux résultats bénéfiques, alors tu devras considérer tout acte de ce type comme absolument convenable pour toi, et tu pourras continuer à l'accomplir. Il ne s'agit pas d'égoïsme, là. Il ne s'agit pas de mon petit plaisir ou de ma petite souffrance. Il s'agit d'observer ce qui est adéquat aux conséquences profitables ou néfastes, aux conséquences dommageables ou fastes. Quel est l'intérêt, le danger, l'implication de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis par rapport à mon cheminement jusqu'à l'éveil et la libération? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire progresser? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui me maintient dans le samsara? C'est pas, j'ai pas envie de souffrir, l'autre est comme moi. C'est pas de l'égoïsme bien partagé. C'est de l'observation de ces habitudes mentales qui nous maintiennent dans le samsara, ou au contraire, des actions positives qui vont nous permettre d'en sortir. C'est une pratique à part entière. C'est même une pratique absolument fondamentale. Les préceptes, c'est l'application de l'attention et de la compréhension, les deux termes essentiels de sati sampajano, être attentif et compréhensif vis-à-vis de ce qui se produit. Alors là, effectivement, on n'est pas dans les satipatthana, on n'est pas dans l'observation de l'intérieur, on est dans l'observation de l'extérieur, ce qui se manifeste dans les gestes et dans la parole. Mais ces gestes et ces paroles, ils sont issus de l'intérieur. Et si vous êtes dans l'observation et la compréhension de ces manifestations, vous serez d'autant plus sensible à la compréhension et à l'attention de leurs intentions. Donc les préceptes, c'est une pratique à part entière, mais dont l'objet n'est pas l'objet intérieur, mais dont l'objet est l'objet extérieur. C'est l'expression qui est employée à la fin du Veluddhavareya Sutta. On dit « celui qui agit de la sorte est pur de corps ». Après, il faut purifier l'esprit. La pratique des préceptes, ça permet la purification du corps dans ce qui est manifestation extérieure. Et la pratique de l'assise, là, vous êtes tourné vers l'intérieur et vous purifiez l'esprit à l'intérieur. Il va de soi que les deux sont indissociables, puisque les deux dépendent. Plus vous laissez faire à l'extérieur, plus les intentions intérieures se perpétueront. Plus vous observerez ce qui se passe à l'extérieur, plus facilement vous observerez ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est bien pourquoi on a toujours dit dans tous les textes bouddhiques, dans l'enseignement graduel des Bouddhas, qu'on commençait par le plus grossier avant d'aborder le plus subtil, mais qu'on continuait d'observer le grossier, même quand on observait le subtil. Il ne faut jamais oublier que la pratique bouddhique, ce n'est pas une pratique où on vous propose des activités successivement. La discipline, le développement de l'esprit, le développement de la sagesse, ce n'est pas l'un après l'autre. C'est cumulatif. Vous commencez par ce qui est le plus simple et le plus grossier, et vous continuez avec ce qui est plus raffiné, plus subtil, pour arriver jusqu'à ce qui est vraiment très raffiné et très subtil, mais sans arrêter, bien évidemment, ce qui se faisait avant. Donc les préceptes, ce n'est pas quelque chose qui est accessoire, ce n'est pas quelque chose qui précède la pratique de l'assise, c'est quelque chose qui est fondamental, dans le sens où c'est la base. Vous ne pouvez rien construire si vous n'avez pas ça. Et je dirais même, si vous n'avez pas les préceptes, si vous ne voyez pas déjà ce qui se fait extérieurement, comment pouvez-vous espérer voir ce qui se produit intérieurement? Si vous n'avez pas l'habitude déjà de observer ce qui se fait dans l'activité sociale, dans votre activité de relationnel, comment est-ce que vous allez pouvoir vous concentrer suffisamment pour observer ce qui se produit dans la relation que vous avez à vous-même à l'intérieur. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans tout ce qui concerne la discipline. La discipline, pour les moines, on l'appelle le vinaya. Mais en fait, ce terme de vinaya, il est applicable aussi pour les préceptes qui s'adressent au maître de maison. Vous savez ce que ça veut dire, vinaya? Il y en a qui le savent forcément. Non? C'est agaçant. Le chasse-neige. C'est le chasse-neige, le vinaya. C'est ce qui vous permet d'avancer en écartant les obstacles sur la route. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Ce qui conduit en écartant. Ce qui conduit sur le chemin en écartant les obstacles. Le vinaya, c'est ce qui doit vous permettre d'être sans regret ni remords. Sans regret ni remords. C'est ça le but du vinaya, le but des préceptes. Ne rien faire dont vous pourriez penser « mince, j'ai fait une sottise. Mince, j'aurais pas dû. Ça, ça va pas m'arranger les choses. Ça va me mettre dans une situation compliquée. » Ah oui, si vous faites comme Raoula, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que ce que je m'apprête à faire va avoir des conséquences fastes ou néfastes pour moi et pour autrui? On a tous appris ça, hein, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, hein, ou y penser 7 fois aussi avant d'agir. C'est exactement ça que nous propose le Bouddha, d'une certaine manière, hein, pour être trivial. On agit moins bêtement, on agit moins sottement, on agit moins samskariquement. Hein. Le samskara, c'est ce qui vient naturellement. Le précepte, c'est justement ne pas laisser ces aspects naturels se manifester. C'est au contraire, là, ah, qui est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais laisser agir? Mon moi ou le disciple du Bouddha? Je vais faire ce qui va me conduire dans le samsara un peu plus loin ou ce qui va me permettre de sortir du samsara un peu plus vite? C'est ça le vinaya. C'est ça les préceptes. Et une fois que vous avez comme ça réussi à débarrasser le terrain, débarrasser le chemin sur le plus grossier, le plus extérieur, le plus social, etc., à ce moment-là, vous pouvez vous retourner vers l'intérieur, vous retourner vers vous-même, dans l'intimité, et vous ne serez plus pollué par cet extérieur-là. Et quand vous vous asseyez, vous penserez un petit peu moins à vos factures d'électricité en retard, à vos obligations, à votre boulot, et à toutes ces questions sociales, justement. Parce que les préceptes vous auront donné l'habitude de les traiter au fur et à mesure. Et elles ne vous reviendront pas en pleine gueule le seul moment où vous vous mettez assis, sur un coussin en silence. Hein? Les préceptes, ça aide aussi à débarrasser le terrain. On ne peut pas s'asseoir tranquillement dans le silence et s'observer intérieurement sans avoir fait le ménage autour. Alors bien sûr qu'on peut. Alors dans ce cas-là, je vous renvoie vers le texte que je cite toujours dans ces cas-là, l'urgence. Comparaison du bhikkhu avec un fermier. Un fermier a 3 tâches urgentes à accomplir. Il doit labourer, il doit semer, il doit arroser. Vite, 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 vite. Puis une fois que c'est fait, ben il attend. Il n'a plus qu'à attendre parce qu'il ne peut pas faire que le grain il pousse. Il ne peut pas les tirer sur la plante hein, pour que ça monte. Il ne peut pas faire en sorte que ça mûrisse. Il ne peut pas faire en sorte que ça devienne bon à moissonner. C'est la nature qui le fera. Une fois que les conditions seront réunies, ça se produira. Lui, il ne peut faire que réunir les conditions. Et bien, c'est pareil pour le bhikkhu. Il doit développer la discipline supérieure, la culture de l'esprit supérieure, la culture de la sagesse supérieure. Et puis après, il attend que la libération se produise. Bon, la discipline, c'est le labourage. Qu'est-ce que c'est que labourer pour un paysan? En fait, labourage, c'est pas peut-être forcément le terme le plus adéquat. C'est le désherbage. C'est le désherbage. Quand vous retournez la terre, vous retirez le l'ivraie, et vous permettez comme ça au bon grain que vous allez pouvoir planter et auquel vous allez apporter de l'eau, qui pousse et qui mûrisse dans les meilleures conditions possibles. Alors vous pouvez ne pas désherber, vous pouvez ne pas labourer. Mais dans ce cas-là, quand vous arroserez aussi les mauvaises herbes. Et le bon grain, qu'est-ce qui lui arrivera?
Il sera étouffé.
Il sera étouffé, bien évidemment. Donc pratiquer l'assise, la méditation sans pratiquer les préceptes, c'est comme arroser les mauvaises herbes. C'est comme arroser les mauvaises herbes. Si vous arrangez pas pour que l'environnement de votre pratique de méditation favorise le développement de cette méditation, comment vous pensez pouvoir arriver à quelque chose? Alors bien sûr que le bon grain, il va pousser des pauvres petits épis à 5 ou 6 grains. Hein, ça sera pas les, ça sera pas la bourse. Donc les préceptes, c'est pas accessoire, c'est fondamental. C'est ce qui vous permet que la pratique de la méditation assise s'infuse dans toute votre journée, dans tout votre quotidien. Parce que c'est exactement le même état d'esprit. Exactement le même état d'esprit, dans les deux cas. Et donc plus vous travaillerez les préceptes dans la journée, plus ça sera facile de travailler sur le coussin. Et inversement. Les deux s'épaulent. Si l'un c'est la purification du corps et l'autre la purification de l'esprit, il faut jamais oublier là, cette image que donne Bouddha Gosa, le corps et l'esprit sont comme deux bottes de roseau appuyées l'une sur l'autre. S'il y en a une qui tombe, l'autre tombe aussi. Si vous ne cultivez pas le corps, vous ne pourrez pas cultiver l'esprit. Si vous ne cultivez pas l'esprit, la culture du corps n'aura pas grand-chose non plus. Les deux. Il faut les deux. C'est l'erreur que font les ascètes, c'est de ne penser que l'esprit en oubliant le corps. C'est l'erreur que font les gens ordinaires, ils ne pensent que le corps et pas l'esprit. Ça, c'est les positions mitya, où on privilégie un au détriment de l'autre. Les ascètes, c'est contre le corps. Il faut libérer l'esprit en supprimant le corps. Les êtres ordinaires, c'est tout pour le corps. Le bonheur de l'esprit dépend que des bonheurs, des plaisirs sensuels. Que fait un disciple du Bouddha? Pas mitya, samma. Samma, le corps et l'esprit, la discipline et la méditation, les préceptes et les jhanas et vipassana, samatha et vipassana. Pas sur la roue aux 8 rayons, on choisit pas un ou deux rayons, les 8. S'il n'y en a que deux, ça tourne pas. Enfin si, ça va tourner. Pas très longtemps. Ça va casser. Avez-vous des questions? Aucune question?
Moi, j'ai une question.
Allez-y.
Les textes excellents que vous avez lus, on peut les retrouver quelque part?
Alors, le Veluddhavarya Sutta sur l'enseignement au village de Brahman, sur les préceptes, c'est tiré du Samyutta Nikaya. Ça doit être traduit par Mohan Vijayaratna dans un de ses volumes, les sermons du Bouddha ou paroles du Bouddha, je ne sais plus, qui sont publiés au Seuil, la collection Point Sagesse, je suis à peu près sûr qu'on doit le trouver là-dedans. Je ne saurais pas vous dire lequel comme ça de mémoire. L'enseignement à Rahula, il est dans ce volume, traduit par Mohan Vijayaratna du Majjhima Nikaya, le tome 3. C'est le deuxième récit des conseils à Rahula, ou premier récit, plutôt premier récit. Il y a trois textes dans le Majjhima Nikaya où le Bouddha enseigne à son fils. Donc là, c'est dans le tome 3 à la page 839. Sinon, dans le fascicule de cours de l'IEB. Dans une version un peu raccourcie.
C'est ce que je voulais vous entendre
dire. Oui. On trouve tout à l'IEB. Enfin, on n'est pas à l'IEB, on est à Vivekarma. Mais de toute façon, à chaque fois que vous verrez les enseignements sur les préceptes d'un point de vue égoïste, comme je vous disais tout à l'heure, le Bouddha s'adresse toujours à des non-bouddhistes, des non-disciples. Alors quand il s'adresse à ses disciples, pas du tout de la même manière. Et moi, ça me chagrine énormément de voir que dans la plupart des bouquins sur le bouddhisme, on vous cite ce texte où le Bouddha s'adresse à des brahmanes comme si c'était un enseignement à ses disciples. C'est absurde. Si ça n'était que ça, les préceptes, pour le Bouddha, franchement, c'est même pas de la gnognotte. Quand on voit l'exigence de l'enseignement du Bouddha habituellement et de la pratique qui en découle, franchement, si ça n'était que ça, ça serait à désespérer. Donc ça n'est pas que ça. Il faut vraiment considérer ça comme une pratique à part entière. Et c'est la pratique que vous faites dans la vie quotidienne. Si vous voulez changer vraiment votre esprit, c'est pas une heure par jour qui suffiront. Hein. C'est 20 heures par jour qu'il faut. Pensez aux milliards de vies où vous avez accumulé les mauvaises habitudes. Hein? 7 heures par semaine, en admettant que vous pratiquez à l'assise une heure par jour, 7 heures par semaine, ça suffira pour lutter contre des milliards de vies? Excusez-moi là, mais vous exagérez un peu. Bon, c'est qu'il fait trop chaud ou je vais complètement achever là. D'habitude, il y a des questions quand même, un minimum. Ai-je été trop clair? Aucune question. Bon, on va s'arrêter là.